これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gai savoir. Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Judith Magre.
Et à la réalisation, François Connac.
Qu'elle soit l'alibi de l'homophobie, la source des bienfaits, la raison des crimes ou l'espèce de mélasse vaguement sentimentale au nom de laquelle des monothéismes récusent soudain leurs différences pour se dire frères, toutes les religions ont toujours été mises à toutes les sauces, sauf peut-être la religion naturelle. C'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui. D'elle, c'est-à-dire de vous peut-être, ou de chacun de nous, puisqu'il suffit pour la pratiquer d'avoir un cœur et d'entendre la voix de sa conscience. Tel est le propos de Rousseau dans La profession de foi du vicaire savoyard, un texte hyper religieux où l'on trouve pourtant une diatribe contre les miracles, la remise en cause du principe d'autorité et la dénonciation des dévots.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
On peut lire La profession de foi du vicaire savoyard dans l'Émile, l'ouvrage sur l'éducation dans lequel Rousseau l'y avait glissé. Il s'agit dans tous les cas d'éducation, se dit-on. Une réflexion sur la religion pouvait naturellement compléter l'éducation pratique d'Émile. Pourtant, ce petit livre se suffit amplement à lui-même. Le questionnement du vicaire n'est ni celui d'un philosophe, ni celui d'un savant. C'est le questionnement d'un homme simple.
Homme, ne cherche plus l'auteur du mal. Cet auteur, c'est toi-même. Il n'existe point d'autre mal que celui que tu fais ou que tu souffres. Et l'un et l'autre te vient de toi. Le mal général ne peut être que dans le désordre. Et je vois dans le système du monde un ordre qui ne se débat point. Le mal particulier n'est que dans le sentiment de l'être qui souffre. Et ce sentiment, l'homme ne l'a pas reçu de la nature. Il se l'est donné. La douleur a peu de prise sur quiconque, ayant peu réfléchi, n'a ni souvenir ni prévoyance. Ôtez nos funestes progrès, ôtez nos erreurs et nos vices, ôtez l'ouvrage de l'homme, et tout est bien.
On commence avec ce texte sur la question qui irrigue en fait toute la profession de foi, c'est la question du mal, l'origine du mal.
C'est une des questions de la profession de foi du vicaire savoyard. C'est une question très importante chez Rousseau en général. Et dans ce moment de la quatrième partie de l'Émile, qu'on appelle, enfin, dans cet instant, la profession de foi du vicaire savoyard. Et c'est un moment où Rousseau, au fond, reprend des arguments qui, avant lui, étaient ceux de Leibniz. Pour le dire très très vite, très simplement, la théodicée de Leibniz, c'est étymologiquement la justice divine, ou le Dieu juste. La théodicée de Leibniz reposait sur le sentiment, sur le constat d'abord de la présence du mal dans ce monde, mais d'un mal au fond dont Leibniz laissait entendre que voir le mal, c'était mal voir.
Un problème d'optique, en fait.
Oui, c'est un problème d'optique. C'est parce qu'on est myope qu'on voit le mal. Si on voyait les choses dans leur ensemble, on ne verrait pas le mal. Et puis Leibniz, tel un peu l'argument du chaudron d'ailleurs, après avoir nié en un sens l'existence objective du mal en diluant le mal dans un calcul plus général, en vient à dire qu'au fond, si mal il y a, c'est le mal moral. Et si mal moral il y a, c'est l'homme qui en est l'auteur. Leibniz va même jusqu'à dire que permettre le mal comme Dieu le permet, c'est la plus grande bonté. Dieu est celui qui a permis le mal, l'homme est celui qui, abusant de la liberté qui est la sienne, doit se tenir pour responsable du mal qu'il commet. Dieu est innocent. Or, Rousseau reprend, en un sens, l'argument de Leibniz. Il est intéressant d'ailleurs que Rousseau reprenne l'argument de Leibniz, puisqu'ils occupent l'un et l'autre des positions finalement assez dissidentes dans l'univers religieux qui est le leur. Ils sont l'un et l'autre, en un sens, extraordinairement pieux et en même temps totalement rétif aux institutions ecclésiales, si vous voulez. Aucun prêtre, aucun ministre du culte n'est venu bénir le cercueil du philosophe théologien Leibniz. De la même manière, Rousseau était le pire ennemi de Rome, et pour cause, puisque dans la profession de foi du vicaire savoyard, au fond, il se prend pour l'abbé Pierre ou pour Monseigneur Gaillot, c'est-à-dire qu'il se prend pour celui qui est en situation de dissidence à l'endroit de l'institution, pour une raison très simple, c'est qu'il écoute seulement la loi de son cœur, il n'a pas du tout besoin, le protestant qu'il est, en gros, pour le dire vite, voire même le calviniste qu'il est, n'a besoin que d'écouter la voix de son cœur, la voix de sa conscience.
Mais parce que la profession de foi du vicaire savoyard a fait scandale, parce que pourtant, comme ça, rien... Enfin, c'est l'impression que j'ai eue, rien de révolutionnaire, rien... Les Anglais l'avaient déjà dit un petit peu comme ça, Diderot l'a dit, pourquoi Rousseau...
L'Émile a fait scandale, oui. Ça a été le début. Si vous voulez, il arrive aux hypochondriaques de tomber malade, il arrive aux paranoïaques d'être effectivement persécuté. Je suis bien obligé d'admettre, si peu rousseauiste que je sois, et si peu historien d'ailleurs que je sois, que effectivement Rousseau a été persécuté à l'occasion de la parution de l'Émile, qui a lancé une espèce d'errance érémitique dont il ne s'est jamais remis. Et à l'intérieur de ça, il y a la profession de foi du vicaire savoyard, dont vous avez raison de dire qu'elle n'est pas originale dans sa dénonciation des institutions religieuses. Mais il le fait avec une telle force, un tel talent. Le piétisme de Rousseau, au fond, le théisme piétiste de Rousseau est si puissant, si fort, si ancré, si éloquent, qu'il en devient extraordinairement subversif. D'ailleurs, c'est l'un des paradoxes de ce texte, hein. La profession de foi du vicaire savoyard est une machine de guerre contre l'Église. C'est-à-dire, c'est une machine de guerre contre la religion, plus encore que contre l'athéisme, je crois. Plus encore même que contre le matérialisme. Il y a des tas d'arguments où Rousseau déconstruit le matérialisme, mais il est moins violent, moins virulent, à l'encontre des sensualistes, des matérialistes, voire des athées, que des usurpateurs du culte, c'est-à-dire ceux qui s'approprient la religion pour finalement réduire l'homme en esclavage. Il n'a rien contre une pratique tranquille, bienveillante, sympa, bon enfant des religions, ça ne lui pose aucun problème. Mais il déteste, au fond, l'imposition, l'hétéronomie d'une parole religieuse, la médiation d'un clergé qui viendrait vous dire quoi penser, quoi dire. Deux petits points avant d'entrer dans cette responsabilité humaine et dans cet argument de Rousseau dans la profession de foi du vicaire savoyard. Homme ne cherche plus l'auteur du mal, cet auteur c'est toi-même. Deux petits points d'histoire avant de rentrer dans le texte lui-même, parce qu'il faut le lire en rousseauiste, hein. C'est-à-dire il faut le lire avec le cœur, hors de toute érudition, hors de tout savoir. Renvoyons les auditeurs aux ouvrages d'excellents spécialistes de Rousseau sur le contexte de rédaction de la profession de foi du vicaire savoyard et essayons de le lire de l'intérieur. Mais quand même, avant cela, rappelez deux choses qui se trouvent dans les confessions. D'abord, le vicaire savoyard, en l'occurrence, est une synthèse de deux personnages que Rousseau a croisés, M. Gatier et M. Guême. Il dit ceci dans les confessions. « Les prêtres, en bonne règle, ne doivent faire des enfants qu'à des femmes mariées. Pour avoir manqué à cette loi de convenance, il fut mis en prison, diffamé et chassé. Je ne sais s'il aura pu dans la suite rétablir ses affaires, mais le sentiment de son infortune, profondément gravé dans mon cœur, me revint quand j'écrivis l'Émile et, réunissant M. Gatier avec M. Guême, je fis de ces deux dignes prêtres l'original du vicaire savoyard et je me flatte que l'imitation n'a pas déshonoré ses modèles. » Première référence de Rousseau, un prêtre qui a fait des enfants. C'est-à-dire un prêtre qui a fait ce que les prêtres, en principe, n'ont pas le droit de faire. Dans la profession de foi du vicaire savoyard, Rousseau l'austère, le sinistre Rousseau de temps en temps, le donneur de leçons, le moralisateur Rousseau, cette fois-ci, lutte contre cette absurdité millénaire, si vous voulez, du célibat des prêtres.
On entendra un texte.
On entendra le texte là-dessus. Deuxième référence importante, malgré tout, qu'il faut citer, l'espèce de religiosité dans laquelle baigne, si j'ai bonne mémoire, le livre 6 des Confessions. C'est-à-dire, on fond la vie avec maman, avec Madame de Varins. Les années avec Madame de Varins, c'est-à-dire entre 1730 et 1740 à peu près, de mémoire, pendant ces années, la religion occupe une place essentielle dans l'architecture, dans l'économie de Rousseau. Mais il faut bien rappeler deux choses. D'abord que maman, donc Madame de Varins, est nouvelle convertie, et qu'elle fréquente de nombreux ecclésiastiques, et qu'elle pratique une sorte de christianisme un peu souple. Un christianisme personnel, matiné de piétisme, un credo sans péché originel, ni châtiment éternel. Entendez ce texte. Elle, qui mettait toute chose en système, n'avait pas manqué d'y mettre aussi la religion. Et ce système était composé d'idées très disparates, les unes très saines, les autres très folles, de sentiments relatifs à son caractère et de préjugés venus de son éducation. En général, dit Rousseau, c'est génial d'ailleurs, les croyants font Dieu comme ils sont eux-mêmes. Les bons le font bon, les méchants le font méchant, les dévots haineux et bilieux ne voient que l'enfer parce qu'ils voudraient damner tout le monde. Les âmes aimantes et douces n'y croient guère. Et l'un des étonnements dont je ne reviens point est de voir le bon Fénelon en parler dans son Télémaque, comme s'il y croyait tout de bon. Mais j'espère qu'il mentait alors, car enfin, quelque véridique qu'on soit, il faut bien mentir quelquefois quand on est évêque. Maman ne mentait pas avec moi. Et cette âme sans fiel, qui ne pouvait imaginer un Dieu vindicatif et toujours courroucé, ne voyait que clémence et miséricorde, où les dévots, là où les dévots ne voient que justice et punition. Elle disait souvent qu'il n'y aurait point de justice en Dieu d'être juste envers nous, parce que, ne nous ayant pas donné ce qu'il faut pour l'être, ce serait redemander plus qu'il n'a donné. Ce qu'il y avait de bizarre était que, sans croire à l'enfer, elle ne laissait pas de croire au purgatoire. Cela venait de ce qu'elle ne savait que faire des âmes des méchants, ne pouvant ni les damner ni les mettre avec les bons jusqu'à ce qu'ils le fussent devenus. Et il faut avouer qu'en effet, dans ce monde et dans l'autre, les méchants sont toujours bien embarrassants. Et puis il continue ensuite en expliquant qu'elle ne croit pas à la doctrine du péché originel, ni à la doctrine de la rédemption, mais que cependant, elle était très bonne catholique. C'est de cette atmosphère, de ce climat, plus de l'envie qui est la sienne d'être... le confesseur, à défaut d'en être l'amant, d'être l'objecteur de conscience de Madame Doudetot, un peu plus tard, c'est de ces deux Madame Doudetot qu'on retrouve sous la figure de Julie, au fond, dans la Nouvelle Héloïse. C'est de l'envie, c'est du souvenir de Madame de Varins, de cet étrange piétisme de Madame de Varins, et de l'envie en même temps d'être de gouverner la conscience de Sophie Doudetot, qu'est née, je crois, la figure du vicaire savoyard, qui prend ainsi la parole pour dire des choses à la fois subversives et en même temps parfois insupportables au lecteur, parce que ça reste quand même Rousseau, c'est-à-dire ça reste quand même quelqu'un qui dit des trucs insensé. Il n'existe point d'autre mal que celui que tu fais ou que tu souffres, dit Rousseau. On l'a entendu dans le texte lu par Judith Magre. En quel sens est-ce que Rousseau peut dire qu'il n'existe point d'autre mal que le mal que l'homme fait ou le mal dont il souffre? Est-ce que c'est au sens où le mal comme la méchanceté sont des idées humaines? Des façons humaines d'interpréter le monde? Mais là, a priori, il n'y a rien à dire. Nietzsche, d'ailleurs, dit la même chose dans la généalogie de la morale. Au paragraphe 13 de la première dissertation, il dit que les agneaux en veuillent aux oiseaux de proie, voilà qui ne surprend personne. Pourtant, il n'y a pas de raison d'en vouloir aux grands oiseaux de proie de ce qu'ils ravissent de petits agneaux. En d'autres termes, la nature n'est pas méchante. La nature accomplit son destin sans se plaindre. Les agneaux sont mangés par les oiseaux de proie. Bien, c'est l'homme qui voit du mal là-dedans. En d'autres termes, l'homme pourrait être l'auteur du mal dans la mesure où il interprète en termes de bien et de mal ce qui correspond d'abord à un mécanisme naturel. Mais ça n'est pas du tout le propos de Rousseau. Rousseau l'entend au sens où, et c'est là qu'il est à mon sens très antipathique, il l'entend au sens où il n'y a point de désordre dans la nature à ses yeux. Au sens où, comme il le dit dans le second discours, dans une phrase qui fera fortune, enfin presque, « la nature ne ment point, contrairement au livre des hommes ». S'il n'y a pas de mal dans la nature, du point de vue de Rousseau, ce n'est pas parce que l'idée de mal est une invention de l'homme qui attribue une intention aux phénomènes qui le font souffrir, par exemple, parce qu'il contemple à tort son propre reflet dans les phénomènes naturels et qu'il a besoin de coupables comme on a besoin d'air pour respirer. Non, non. Du point de vue de Rousseau, s'il n'y a pas de mal dans la nature, c'est parce que la nature est bonne. En d'autres termes, au lieu de guérir de l'anthropocentrisme à la façon de Spinoza ou de Nietzsche, Rousseau le pratique au carré. Il dit, je vois dans le système du monde un ordre qui ne se dément point. Et là encore, pour bien comprendre son propos, il faut revenir en amont, c'est-à-dire à la querelle, enfin querelle à distance, Spinoza-Leibniz. Spinoza dit dans l'éthique, par réalité et perfection, j'entends la même chose. Ce qu'il ne faut pas comprendre comme étant une façon de dire que la réalité c'est super, si vous voulez, ou c'est merveilleux, ou c'est parfait, ou plus parfait au sens moral du terme. Non, la réalité est achevée. La réalité, pour le dire vite chez Spinoza, est tout entière, tout ce qu'elle peut être à l'instant où elle est ce qu'elle est. Il n'y a rien d'autre à en faire, il n'y a rien d'autre à en dire, et pour cause. C'est comme ça, si vous voulez. Donc par réalité et perfection, j'entends la même chose. Que dit Leibniz ? Je suis, dans le discours de métaphysique, « Je suis très éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu'il n'y a point de règle de bonté et de perfection dans la nature des choses. » Ça, c'est directement contre Spinoza. Ou dans les idées que Dieu en a. Je suis très éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent que les ouvrages de Dieu ne sont bons que par cette raison formelle que Dieu les a faits. Car si cela était, Dieu, sachant qu'il en est l'auteur, n'aurait que faire de les regarder par après et de les trouver bons, comme en témoigne la Sainte Écriture. Alors, que dit Leibniz ? Il dit « C'est par la considération des ouvrages qu'on peut découvrir l'ouvrier. Il faut donc que ces ouvrages portent en eux son caractère. Et il s'en prend à ceux dont l'opinion est que la beauté de l'univers et la bonté que nous attribuons aux ouvrages de Dieu ne sont que des chimères des hommes, parce que cela détruise tout l'amour de Dieu et toute sa gloire. » Or, c'est exactement la même chose que dira Rousseau un peu plus tard quand il s'en prendra aux sceptiques qui rendent les hommes très malheureux. Il dit « il vaut mieux se tromper que d'être sceptique » parce que quand on est sceptique, on est extrêmement malheureux. Et Rousseau s'en prendra, comme Leibniz, à ceux qui plaident en faveur d'une sorte de neutralité axiologique de la nature. L'idée nietzschéenne, si vous voulez, qu'il n'y a pas de phénomènes moraux, mais seulement une interprétation morale des phénomènes.
C'est la dernière phrase du texte qu'on a entendue, je la relis, c'est « ôtez nos funestes progrès, ôtez nos erreurs et nos vices, ôtez l'ouvrage de l'homme et tout est bien ».
Ouais, c'est odieux ça.
C'est odieux.
Moi je trouve ça odieux. Mais bon, c'est, après on doit aux auditeurs, si vous voulez, l'honnêteté de dire ce qu'on éprouve en lisant un texte. Et il faut bien se souvenir, vraiment inviter nos auditeurs à le savoir. Il ne s'agit pas pour moi de les convaincre, ni pour vous peut-être, de les convaincre que Rousseau est odieux. C'est un sentiment. C'est un sentiment. C'est donc incontestable parce que c'est viscéral, mais ce n'est pas incontestable parce que c'est une certitude, si vous voulez, ou une certitude absolue ou démonstrative. Il n'y a pas de valeur apodictique dans ce qu'on dit là. On est juste en train de dire ce qu'on éprouve. Faire de la philosophie, c'est aussi faire droit à son épiderme. Or, son épiderme, mon épiderme, trouve en l'occurrence Rousseau odieux. Comme je trouvais Rousseau odieux dans le premier discours, le discours sur les sciences et les arts, dans lequel Rousseau dit « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancées à la perfection. » C'est-à-dire, c'est le moment où Rousseau préfère incriminer les hommes du mal qui est en ce monde, tout simplement pour disculper Dieu. Or, on retrouve ces arguments avant même la rédaction de la profession de foi du vicaire savoyard dans les lettres sur la Providence. Par exemple, Voltaire, après le tremblement de terre de Lisbonne, rédige le poème sur le tremblement de terre de Lisbonne. C'est un poème bouleversant, magnifique, extrêmement bien écrit, dans lequel il dit « Direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui d'un Dieu libre et bon nécessite le choix. Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes. » Bref, Voltaire se moque de ceux qui, face au tremblement de terre de Lisbonne, continuent de dire que le mal en ce monde est uniquement l'œuvre de l'homme. Non, faut pas déconner. Il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a des volcans, il y a un mal physique, ça existe aussi. Alors, il ne s'agit pas de dire que Dieu est méchant, on n'en sait rien. C'est pas la question, en un sens, ce serait déposer sur lui des catégories humaines, mais on va pas non plus tenir l'homme pour responsable de ce mal. Or, que dit Rousseau dans sa lettre sur la Providence, qui date de 56, donc en amont de la profession de foi du vicaire savoyard ? Que dit Rousseau ? Il dit, convenez, il le dit à Voltaire, convenez que la nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre pour vouloir prendre l'un ses habits, l'autre ses papiers, l'autre son argent. En d'autres termes, certes, la terre a tremblé, mais les habitations antisismiques pas construites, c'est l'œuvre de l'homme. C'est en cela, si vous voulez, que Rousseau continue de disculper la divinité du mal qui est en ce monde, aux dépens de l'homme qu'il a besoin de mettre en accusation, ce qu'il fait dans la profession de foi du vicaire savoyard, en plusieurs endroits. Hein. Il revient plusieurs fois sur cet argument de la théodicée, à plusieurs reprises.
D'ailleurs, je voulais dire qu'en donnant notre sentiment sur ce texte, on ne faisait que se fier à nos sens, à notre épiderme, comme vous disiez, et donc suivre
la méthode que Rousseau nous indique.
Que Rousseau et le vicaire préconisent.
Oui, tout à fait. Et c'est en cela d'ailleurs que la profession de foi du vicaire savoyard est merveilleuse. C'est qu'elle invite les uns et les autres à écouter la voix de son cœur.
Et c'est l'enjeu du texte qu'on va entendre.
C'est l'enjeu du texte qu'on va entendre, on va en parler après.
Conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. Sans toi, je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreur en erreur, à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Grâce au ciel, Nous voilà délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie. Nous pouvons être hommes sans être savants, dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale. Nous avons à moindre frais un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions humaines. Mais ce n'est pas assez que ce guide existe, il faut savoir le reconnaître et le suivre. S'il parle à tous les cœurs, pourquoi donc y en a-t-il si peu qui l'entendent ? Eh, c'est qu'il nous parle la langue de la nature, que tout nous a fait oublier. La conscience est timide, elle aime la retraite et la paix. Le monde et le bruit l'épouvantent. Les préjugés dont on l'a fait naître sont ses plus cruels ennemis. Elle fuit ou se tait devant eux. Leur voix bruyante étouffe la sienne et l'empêche de se faire entendre. Le fanatisme ose la contrefaire et dicter le crime en son nom. Elle se rebute enfin à force d'être éconduite. Elle ne nous parle plus, elle ne nous répond plus. Et après de si longs mépris pour elle, il en coûte autant de la rappeler qu'il en coûta de la bannir.
C'est exactement ce qu'on disait, guider, être guidé par sa conscience. Mais Rousseau, ici, critique un dévoiement de la conscience, c'est ça ?
Rousseau, d'abord, il faut faire, en un sens, après avoir dit qu'il fallait suivre son cœur et s'en tenir au texte, on va refaire un tout petit peu d'histoire des idées. Vraiment, le point de départ de la profession de foi du vicaire savoyard, c'est aussi Descartes. Hein. C'est ce que Descartes est capable de construire et d'établir. D'ailleurs, Rousseau surmonte. Il y a des passages qui sont quasiment recopiés des méditations métaphysiques.
Et là, il y a du bon sens cartésien. Peut-être que.
Oui, il y a du.
Alors, on peut limiter l'analogie, mais il y a.
Alors, il y a, non, y a du bon sens, mais c'est aussi, je crois, parce que Rousseau, en une page. De façon tout à fait, vraiment, assez légère d'ailleurs, hein, règle la question cartésienne de l'existence du monde matériel, si vous voulez. On se casse la tête dessus depuis 4 siècles. Rousseau prend la question du monde matériel, il prend les postulats cartésiens, auxquels il adhère davantage que l'idée selon laquelle notre conscience est toujours conscience de quelque chose. Non, il y a une conscience séparément de ce dont elle est conscience. Bon, mais ça n'empêche pas le monde matériel d'exister, ça n'empêche pas mes sensations de renvoyer à un objet qui n'est pas moi. Bon, il règle la question, si vous voulez, de l'existence du monde extérieur. Et alors, ce que je veux dire, c'est que quand il dit conscience, conscience, bien sûr, il donne un sens moral à ça. Conscience, conscience, c'est la voix que chacun porte en lui. Mais c'est une étrange altérité. C'est une altérité qui compose notre identité. C'est une voix qui nous parle et qui n'est pourtant que nous-mêmes. Rousseau est peut-être celui qui dit le mieux ce que nous nous représentons ordinairement par la conscience. Gémini criquet. Je suis ta conscience. Tiens, d'ailleurs, on va entendre un extrait de Pinocchio tout de suite.
Conscience, qu'est-ce que c'est ?
Ce qu'est la conscience. Je vais te dire. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Tu saisis ?
C'est toi, ma conscience ?
Qui ? Moi ?
Pinocchio a compris. Veux-tu être sa conscience ?
Moi ? Mais c'est-à-dire que...
Parfait. Comment te nommes-tu ?
Oh, j'ai un nom très simple. Jiminy Cricket.
À genoux, Monsieur Cricket.
Pas de farce, hein ?
Je te nomme par l'étoile du soir, conscience de Pinocchio, grand chancelier de la connaissance du bien et du mal, et son guide sur les 3 chemins du devoir. Debout, Monsieur Jiminy Cricket ?
Oh ! Oh, magnifique. Dites, c'est plutôt flatteur. Je suis très content. Mais n'aurais-je pas un insigne, une plaque ?
Eh bien, nous verrons.
Je peux vraiment espérer.
Je crois que tu peux.
Un bel insigne en or.
Peut-être bien. Alors, rappelle-toi, Pinocchio. Sois un brave petit garçon. Écoute toujours la voix de ta conscience. Fais ce qu'elle te dit.
Au revoir, Votre Altesse.
La conscience, c'est Gémini Criquet, c'est une voix qui parle en soi. Et cette voix qui est moi et qui me parle en même temps est à comprendre à la fois comme un héritage du cartésianisme, de ce tour de force cartésien par lequel un individu se pense lui-même pensant, est à comprendre également comme un remède à l'hétéronomie, qui est le mot-clé ici. Et donc Kant saura se servir ensuite. L'hétéronomie, c'est tout simplement le fait de recevoir sa loi d'un autre. La conscience permet de ne pas recevoir sa loi d'un autre. De la même manière que le livre de la nature nous dispense de la lecture des livres menteurs des autres hommes. La conscience nous dispense des injonctions morales que les autres nous adressent. Évidemment, le problème, c'est que Rousseau a passé sa vie à faire la morale au monde, et donc à lui-même être en position hétéronome, si vous voulez, de donneur de leçons, et à regretter que les hommes n'entendent pas ce qu'il avait à leur dire. Néanmoins, il théorise ici quelque chose de fondamental, qui est le basculement de l'hétéronomie vers l'autonomie, c'est-à-dire le fait de se donner à soi-même sa propre loi. C'est ce qu'il faut entendre par conscience, cet instinct divin, étrange oxymore ça, instinct divin, qui emprunte à l'animalité comme à la divinité. Ici, Rousseau est platonicien par cet oxymore d'instinct divin. Souvenez-vous, Paola, je crois, c'est dans le Ménon. Dans le Ménon, vous avez trois, quatre figures du rapport au monde. Vous avez la figure animale, c'est-à-dire la figure... Vous avez, disons, l'ignorant, le philosophe et le savant. Le problème de l'ignorant, c'est qu'il ignore qu'il ignore. Ignorant qu'il ignore, il n'éprouve pas le besoin de savoir. Le savant, c'est celui qui sait qu'il sait, qui, sachant qu'il sait, n'éprouve pas non plus le besoin de savoir. Et comme il sait qu'il sait, il ignore qu'il ignore aussi, d'ailleurs. Bien. Entre les deux, vous avez celui qui sait qu'il ignore, ou qui sait qu'il ne sait rien. C'est le philosophe qui en sait assez pour avoir le désir d'apprendre. Vous avez donc ces trois figures qui sont en jeu. Or, quand Rousseau parle, en vérité, à la figure de l'ignorant comme à la figure du sachant ou du savant, correspondent la figure de l'animal comme la figure du divin. Instinct divin. Rousseau, ici, pour qualifier ce qui fait le propre de l'homme, c'est-à-dire la détention d'une conscience, ce qui fait de l'homme le maître, le roi de cette terre, il le dit à peu près comme ça dans la profession de foi du vicaire savoyard, le propre de l'humanité est qualifié par Rousseau dans des termes qui empruntent à la fois à l'animalité et à la divinité. Instinct divin. C'est quand même extraordinaire de concevoir qu'il fabrique la conscience, c'est-à-dire ce qui fait le propre de l'humanité, avec ce que l'humanité n'est pas, avec une sorte de smoothie d'animal et de dieu, de milkshake d'humain et de divinité, d'oxymore animalo-divin, si vous voulez. Et un peu plus loin, il dit d'ailleurs, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. Ce qui, chez Descartes, rendait l'homme semblable à Dieu, c'était la volonté. On a un entendement limité, on ne peut pas tout connaître. Dieu, lui, oui. Mais en revanche, on a une volonté qui nous rend semblable à Dieu. Et chez Descartes, c'est la source de l'erreur. On veut plus qu'on ne conçoit. Voulant plus qu'on ne conçoit, on commet des erreurs. Bien. Du point de vue de Rousseau, ce qui nous rend semblable à Dieu, ça n'est pas l'infinité de notre volonté, c'est notre conscience. C'est le fait qu'au fond, nous sachions ce qui est bien et ce qui est mal. C'est cette aptitude innée que nous avons à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées, par exemple, et qui lui donne le sentiment, et ça c'est quand même assez fort, que, au fond, on n'a pas besoin de tout cet effrayant appareil de philosophie. Pour le dire très simplement, on n'a pas besoin de lire la critique de la raison pratique, qui n'existait pas au moment où il écrivait la profession de foi du vicaire savoyard. On n'a pas besoin de lire la critique de la raison pratique pour venir en aide à quelqu'un qui a besoin de nous. On n'a même pas besoin de lire la Bible pour ça. On n'a besoin que de soi. Il nous suffit d'avoir un cœur. Et c'est à ce genre de vérité que Rousseau nous renvoie. Donc on peut faire les malins, on peut faire assaut d'érudition, parler de Descartes, Leibniz, etc., etc., faire les cagneux. Ça ne change rien au fait qu'on est quand même des humains et qu'on est sensible aux douleurs qui nous sont épargnées. Et c'est à cela que Rousseau sait faire appel. Et c'est en cela qu'il parle de la langue de la nature. Et qu'il dit que nous avons désappris la langue de la nature en entrant en société.
Et cette langue de la nature va de pair avec une critique de la philosophie.
Oui, de cet effrayant appareil de philosophie.
Nous sommes délivrés.
Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses chez Rousseau. En un sens, heureusement qu'on est délivré de tout cet effrayant appareil de philosophie. Bien sûr, quoi de plus ennuyeux que le binoclar de l'âme qui a besoin d'avoir tout lu avant de se prononcer sur quelque chose. Autant déduire la beauté de ce qu'on nous en a appris dans un traité du beau, si vous voulez. C'est une folie. Donc il y a chez Rousseau une volonté de mettre de côté l'érudition, d'éloigner l'érudition. Bien. C'est Proust qui présente l'érudition comme une façon de fuir sa propre vie. Donc il éloigne l'érudition tant qu'elle est une manière de fuir sa propre vie. Et en cela, c'est incontestable, il n'y a pas de doute. Le problème, si vous voulez, c'est que Rousseau transige tellement peu avec le sentiment qu'il a d'avoir raison, au fond, avec la certitude qu'il a de dire là une vérité, eh bien, qu'il écrit, il en vient à écrire des textes dans les milles extrêmement antipathiques sur les livres même. Dans la chambre où ils entrent, j'entrevois des livres, quel triste ameublement pour un enfant. Le pauvre enfant se laisse entraîner, tourne un œil de regret sur tout ce qui l'environne, se tait et part, les yeux gonflés de pleurs qu'il n'ose répandre et le cœur gros de soupirs qu'il n'ose exhaler. Vous imaginez ce que Rousseau aurait dit de la princesse de Clèves ? Tiens, on va entendre, tiens, vous vous souvenez de ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy de la princesse de Clèves ?
Non.
Écoutez.
Lorsqu'on part des concours administratifs, dans un parcours au mérite, on doit tenir compte, me semble-t-il, du fait que s'il y a deux candidats, il y en a un qui a fait 15 ans au service du bénévolat de l'association et l'autre qui n'a rien fait, on ne le critique pas, on ne le critique pas. Mais ça doit donner des points de plus à celui qui a fait du bénévolat pour les autres, quand même. Je veux dire, en termes de richesse humaine, d'engagement au service des autres, pourquoi on n'en tiendrait pas compte ? Ça vaut autant que de savoir par cœur la princesse de Clèves. Enfin, j'ai rien contre. Mais enfin, enfin, parce que j'avais beaucoup souffert sur elle.
Ce que Nicolas Sarkozy dit de la princesse de Clèves, c'est en gros, il n'y a pas besoin de lire la princesse de Clèves pour faire des études. En gros, c'est une dénonciation de l'inutile. Et il dit, moi j'ai beaucoup souffert en lisant la princesse de Clèves. Alors, ce qui est intéressant avec Rousseau, le sarkozyste Jean-Jacques Rousseau en l'occurrence, c'est que Jean-Jacques Rousseau est également celui qui, dans l'Émile, voudrait que son étudiant apprenne ce qui lui est effectivement utile. Alors effectivement, peut-être que pour faire suivre telle ou telle formation professionnelle aujourd'hui, il est inutile de lire la princesse de Clèves. Celui qui le dit a peut-être raison de le dire. Ce n'est pas ça qu'on conteste. Mais il est rousseauiste, de part en part.
Et Rousseau est normatif, en fait.
Que voulez-vous dire par normatif,
hein ? Il a beau jeu de dire que telle et telle chose sont inutiles, mais lui, il institue ce qui, selon lui, est utile.
Oui. En même temps, il est attentif à la singularité de chacun de ses élèves, si vous voulez, ou de chacun des élèves imaginaires qu'il peut avoir. Il dit quand même, hein, qu'importe à un écolier de savoir comment s'y prit Hannibal pour déterminer ses soldats à passer les Alpes. En d'autres termes, ne vous cassez pas la tête à lire Salluste, ça ne sert à rien, c'est pas le moment. Si au lieu de ces magnifiques harangues, vous lui disiez comment il doit s'y prendre pour porter son préfet à lui donner congé, soyez sûr qu'il serait plus attentif à vos règles. C'est intéressant parce que c'est un discours qu'on trouve déjà chez Montaigne. Hein. On trouve chez Montaigne l'idée qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à apprendre des choses qui nous sont, en un sens, inutiles. Mais je crois qu'il y a une petite nuance à introduire entre la conception de l'éducation chez Montaigne et la conception que Rousseau en déduit. Paola.
Avant que vous montriez la différence, il y a des passages qui sont flagrants, tellement ils sont, enfin, dont la ressemblance avec le traité sur l'éducation dans les essais de Montaigne, dont on a déjà parlé, sur le rôle, par exemple, de l'éducateur et de son élève. À un moment, donc au début, avant le credo du vicaire, et il dit donc, que le vicaire doit se mettre en se mettant toujours à sa portée, en se faisant petit pour s'égaler à lui. C'est exactement ce qu'on retrouvait dans Montaigne.
Tout à fait. On a beaucoup d'intuitions montagniennes chez Rousseau, comme on a énormément d'intuitions montagniennes chez Pascal. Rousseau, Pascal et Nietzsche sont vraiment les trois pillards de Montaigne. Vraiment, c'est étonnant. Alors, c'est peut-être Pascal qui lui en a pris le plus. Et c'est intéressant de voir que, parce que Pascal le prend quasiment phrase à phrase, hein, parfois. Mais c'est intéressant d'observer que Rousseau et Pascal se défendent beaucoup plus que Nietzsche de cet héritage montagnien, précisément parce que Rousseau et Pascal ressemble de très près à Montaigne et voudrait s'en détacher. Pascal, pour aller dans le sens de l'apologie de la religion chrétienne, ce que Montaigne ne fait pas. Au fond, pour Montaigne, on est catholique comme on est périgourdin, si vous voulez. Alors, il est catholique, mais il ne dit pas de mal de l'Église romaine et apostolique et romaine, mais ce n'est pas son problème, au fond. Et Rousseau, parce que l'orgueil de Rousseau a besoin de tenir Montaigne pour orgueilleux. Et les subterfuges de Rousseau ont besoin de faire croire que Montaigne lui-même se peint de profil, alors que c'est Rousseau qui se sculpte une statue de gloire à laquelle Chateaubriand n'aura rien à envier. Donc Rousseau et Pascal empruntent beaucoup à Montaigne et le reconnaissent assez peu, il faut bien le dire. Et sur la question de l'éducation, pour en revenir à ce problème-là, je crois qu'il y a quand même une différence dans la méthode éducative de Montaigne et de Rousseau, dans la mesure où il y a chez Rousseau l'idée d'une normativité naturelle. Il y a chez Montaigne une critique du gavage. Alors, les deux conceptions peuvent se rejoindre. Quand la nature est normative, quand c'est dans le grand livre de la nature et non dans les livres des autres hommes qui sont tous menteurs qu'il faut tirer ses leçons, comme c'est le cas chez Rousseau, évidemment, on trouve des passages de Rousseau contre le gavage de l'élève. Et donc des passages assez montagniens, si vous voulez, contre cette façon qu'on aurait de remplir la tête au lieu de la façonner intelligemment. Alors, Montaigne dit « apprenons l'art qui nous fait homme », ou plus exactement, « avant les arts libéraux, apprenons l'art qui nous fait libre ». Je crois que ça n'est pas tout à fait la même chose. Chez Montaigne, cet art qui nous fait libre n'exclut pas le livre par définition, si vous voulez. Or, chez Rousseau, il y a un rapport au livre qui est un rapport extrêmement complexe et problématique. Valeur ajoutée du rapport rousseauiste au livre, quiconque a dans sa vie souffert de voir un gros livre sur sa table en se disant que c'était le truc qu'il devait lire pour sa classe ou pour l'école, quiconque s'est représenté un paquet de pages comme une montagne à gravir, a fait là une expérience rousseauiste. Le paradoxe, c'est que Rousseau le dit dans un livre qui lui-même est large comme un avant-bras, c'est-à-dire l'Émile. Mais bon, quiconque a été un jour saisi de terreur devant cette... Vous savez, un livre, c'est quand même un objet... ou des pages, c'est-à-dire quand même des pages sans épaisseur, ou qui n'ont que l'épaisseur d'une feuille, sont si nombreuses qu'elles ont la compacité d'un bloc. Le livre, c'est ça aussi. Et il faut faire droit à cette terreur d'enfant devant un livre, et au plaisir qu'il peut y avoir à avoir des livres courts, par exemple, dans les mains. Moi, c'est un plaisir qui ne m'a jamais quitté. J'ai toujours aimé avoir des livres courts dans les mains. C'est une félicité, un livre court. C'est très rare, les livres longs dont on peut supporter, au fond, la présence. J'ai beaucoup de mal avec les pavés, si vous voulez. Et de ce point de vue, je crois que Rousseau marque des points, effectivement. Quand même, Paola, Rousseau a quand même écrit contre l'imprimerie. Je cite Rousseau. « Grâce au caractère typographique et à l'usage que nous en faisons, les dangereuses rêveries des Hobbes et des Spinoza resteront à jamais. » Je continue. « Toujours des livres. Quelle manie. Parce que l'Europe est pleine de livres. Les Européens les regardent comme indispensables, sans songer que sur les trois quarts de la Terre, on n'en a jamais vu. Tous les livres n'ont-ils pas été écrits par des hommes? Comment donc l'homme en aurait-il besoin pour connaître ses devoirs? Et quels moyens avait-il de les connaître avant que ces livres fussent faits? Où il apprendra ses devoirs de lui-même? Où il est dispensé de les savoir ?»
Alors, on va quand même écouter... c'est quand même un des intérêts du livre sur la critique des miracles.
C'est génial, ça, d'ailleurs. Ça, c'est le grand moment de la profession de foi du vicaire savoyard. La critique des miracles, en fait, ce qu'il y a, le contenu de la religion naturelle. La critique des miracles, la critique de la prière. L'éloge du mariage des prêtres. Ce que le texte a de vraiment, à mon avis, subversif. Et surtout, là, pour le coup, c'est le bon côté de Rousseau. C'est-à-dire que le misanthrope est antipathique quand il s'en prend aux œuvres humaines ou quand il tient l'homme pour seul responsable du mal. Mais il redevient sympathique, extrêmement sympathique, quand sa misanthropie le fait critiquer toutes ces façons qu'ont les hommes de prendre le monde pour leur désir, au fond, et de réduire le monde à l'idée qu'ils s'en font.
Thank you.
Dieu a parlé. Voilà certains grands mots. Et à qui a-t-il parlé? Il a parlé aux hommes. Pourquoi donc n'en ai-je rien entendu? Il a chargé d'autres hommes de vous rendre sa parole. J'entends, ce sont des hommes qui vont me dire ce que Dieu a dit. J'aimerais mieux avoir entendu Dieu lui-même. Il ne lui en aurait pas coûté davantage, et j'aurais été à l'abri de la séduction. Il vous en garantit en manifestant la mission de ses envoyés. Comment cela? Par des prodiges. Et où sont ces prodiges? Dans les livres. Et qui a fait ces livres? Des hommes. Et qui a vu ces prodiges? Des hommes qui les attestent. Quoi? Toujours des témoignages humains? Toujours des hommes qui me rapportent ce que d'autres hommes ont rapporté? Que d'hommes entre Dieu et moi! Voyons toutefois, examinons, comparons, vérifions. Or, si Dieu eût daigné me dispenser de tout ce travail, l'en aurais-je servi de moins bon cœur?
Ce que critique Rousseau, c'est toutes les personnes, tous les prêtres ou autres qui s'interposent entre le vicaire et la religion.
Les intercesseurs, les intermédiaires, ceux qui interprètent la parole de Dieu. Alors bien sûr, ça prend la forme d'une critique sociologique de l'institution ecclésiale, au fond, de l'Église. Bon, de l'Église sous la forme de l'hétéronomie, c'est-à-dire d'un discours venu d'un dogme. De l'Église romaine qui vous dit ce qu'il faut penser de telle ou telle chose. Oui, bien sûr, hein, c'est ça qui est en jeu, mais au fond, ce qu'il critique également, ça va plus loin. C'est le fait de recevoir sa loi d'un autre. Et ça va même plus loin encore que ça. C'est le fait de demander à Dieu de se manifester, de prendre forme humaine. C'est-à-dire que si, on en avait déjà parlé, tiens, un Dieu qui vous parle, ça ne peut pas être Dieu. Un Dieu qui vous parle, ou plus exactement un Dieu qui vous parle la langue des hommes, ça ne peut pas être Dieu. Si un jour, un Dieu venait vous parler, ce ne serait pas Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faudrait expliquer à cette instance venue vous parler qu'elle n'est pas Dieu puisqu'elle vous parle en empruntant la voix des hommes. Donc la critique qu'il formule ici va plus loin, si vous voulez, que la critique des intercesseurs. Et puis il y a une anecdote formidable. Dites-moi, Paula.
Mais il se rapproche de Spinoza en cela, parce qu'on avait, juste avant de passer ce texte, on avait dit, Rousseau disait, oui, toutes ces dangereuses choses qu'écrit Spinoza vont rester à cause de l'imprimerie. Lui, ça lui a servi.
Il est totalement spinoziste à cet instant, c'est vrai. Il est spinoziste à cet instant. Dans la critique, il formule des miracles. Pour Spinoza, je renvoie ici l'auditeur au chapitre 6 du traité théologico-politique sur la question des miracles, dans lequel Spinoza dit que le miracle, ça n'est pas ce qui déroge à l'ordre de la nature. Ça, c'est l'idée stupide qu'on s'en fait. Un miracle, c'est un bateau en papier, une cocotte en papier que vous jetez dans le fleuve et qui se met à remonter le cours du fleuve. Vous voyez ? Le miracle, c'est ce qui déroge à l'ordre de la nature. Mais non, dit Spinoza. Et les gens voient une preuve de l'existence de Dieu dans ce qui déroge à l'ordre de la nature. Mais c'est Dieu, la nature. Donc ce qui déroge à l'ordre de la nature nous ferait plutôt douter de l'existence de Dieu, dit Spinoza. Le miracle, dit Spinoza, il y a une idée du miracle chez Spinoza. Mais le miracle, ça n'est pas ce qui déroge l'ordre de la nature, c'est l'ordre de la nature lui-même. Le vrai miracle, c'est que ce qui existe, existe. Pour le dire très simplement, chez Spinoza, le miracle, c'est de marcher sur terre, pas de marcher sur l'eau. Alors, je ne sais plus d'ailleurs si on en a déjà parlé ici, mais moi, je ne me lasse pas de cette anecdote, vous savez, de la béatification de Jean-Paul II à l'occasion de la guérison miraculeuse de Sœur Marie Simon-Pierre. Cette histoire est géniale. Sœur Marie Simon-Pierre, la pauvrette, elle avait, je ne sais plus quoi, un truc horrible, la sclérose en plaques, enfin ça n'allait pas. Et puis elle a guéri, bon, quelques jours après, je crois, la mort de Jean-Paul II. Bon. Et l'Église, il y a une commission d'experts, de scientifiques et de religieux qui se sont réunis pour repérer, pour décréter que c'était un miracle. Ce qui est tout simplement hallucinant quand on y pense. C'est là vraiment que l'Église est complètement folle, si vous voulez, que la place Saint-Pierre, c'est la cour des miracles. D'abord, au nom de quoi serait-ce un miracle? Dans le fait qu'on n'y trouve aucune explication, ce serait complètement présomptueux d'y voir un miracle. Vous comprenez que si l'énigme ou le mystère était le critère du miraculeux, le label de miracle serait décerné à tout bout de champ. Le monde serait truffé de miracles éphémères. Et puis, c'est faire grand cas de son propre savoir que de tenir pour miraculeux ce qui échappe à son propre savoir. L'autre argument, c'est ça a été validé par une commission médicale d'experts. Non, franchement, on se poile. Un miracle qui a besoin d'être ratifié, ça vaut pas grand-chose. De la même manière que prouver l'existence de Dieu, c'est le faire tomber du ciel en privant les hommes de croire en lui, valider ou ratifier un miracle par une commission médicale d'experts, enfin, qu'est-ce qui reste d'un miracle quand il s'appuie sur l'expertise et la raison, si vous voulez? Alors, on dit, la rémission foudroyante de Sœur Marie Simon-Pierre défie les lois de la nature. Mais là encore, ce serait opposer Dieu à lui-même, en opposant sa puissance aux lois qui s'appliquent à tout ce qui existe. Et là, pour le coup, Spinoza a l'appui. Bon. On dit aussi, c'est un miracle parce qu'on le trouve dans la... Enfin, il y a des tas de miracles dans la Bible, il n'y a qu'à voir la lecture des évangiles. Et après tout, s'il est possible de ressusciter, de marcher sur l'eau, de multiplier les pains, rien n'empêche de guérir soudain de la sclérose en plaques ou de la maladie de Parkinson. Non, non, elle a la maladie de Parkinson, comme Jean-Paul II, justement. Ce qui est stupide au carré, puisque ce serait prendre la Bible au pied de la lettre et oublier l'injonction christique de tenir précisément ce que le Christ raconte, ce qui est raconté dans le Nouveau Testament comme autant de paraboles, comme autant de métaphores. Ce que je veux dire ici, c'est que le Christ n'a pas plus marché sur l'eau que l'allégorie de la caverne est une affaire de spéléologie. Voilà. Il ne faut pas tout confondre dans l'existence. Or, celui qui parle de miracle est celui qui confond tout. Alors, ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est que sur une espèce de confusionnisme général, de mélange, d'autorité ecclésiale, de « on ne sait pas trop, donc si ça se trouve, c'est peut-être le cas », cette espèce de mélasse clérico-scientifique qui fait que, du coup, une commission médicale théodule d'experts décrète que la guérison ou la rémission miraculeuse de Sœur Marie Simon-Pierre est un miracle, ceci, c'est le Moyen-Âge, Paola. Ça, c'est le Moyen-Âge. D'ailleurs, les jésuites ne supportent pas ça. J'ai bien des amis jésuites, comme on dit. Je ne suis pas anti-religieux, j'ai d'excellents amis jésuites qui, eux-mêmes, étaient scandalisés par un tel procédé. Je veux dire, ça n'avait aucun sens de parler ici de miracles. Comme il n'y a aucun sens, en définitive, à parler de miracles comme en réduisant le miracle à ce qui déroge aux lois de la nature. Et là, vraiment, pour le coup, je dois dire, Rousseau, il y a une vraie valeur ajoutée de la pensée de Rousseau. On trouve ça un tout petit peu avant ce qu'il dit des miracles, dans le fait que Dieu ne parle pas, ou dans le fait lui-même d'ailleurs, qu'il refuse de prier. Écoutez ça, je médite sur l'ordre de l'univers, non pour l'expliquer par de vains mystères, mais pour l'admirer sans cesse, pour adorer le sage auteur qui s'y fait sentir. Je converse avec lui, je pénètre toutes mes facultés de sa divine essence, je m'attendris à ses bienfaits, je le bénis de ses dons, mais je ne le prie pas. Que lui demanderais-je? Qu'il changeât pour moi le cours des choses? Qu'il fît des miracles en ma faveur? Moi qui dois aimer par-dessus tout l'ordre établi par sa sagesse et maintenu par sa providence, voudrais-je que cet ordre fût troublé par moi? Non. Ce vœu téméraire mériterait d'être plutôt puni qu'exaucé.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui gêne, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie.
Il est un âge où le cœur fibre encore, mais ardent, inquiet, avide du bonheur qu'il ne connaît pas, le cherche avec une curieuse incertitude, et trompé par les sens, se fixe enfin sur sa vaine image et croit le trouver où il n'est point. Ces illusions ont duré trop longtemps pour moi. Hélas, je les ai trop tard connues et n'ai pu tout à fait les détruire. Elles dureront autant que ce corps mortel qui les cause. Au moins, elles ont beau me séduire, elles ne m'abusent pas. Je les connais pour ce qu'elles sont. En les suivant, je les méprise. Loin d'y voir l'objet de mon bonheur, j'y vois son obstacle. J'aspire au moment où, délivré des entraves du corps, je serai, moi, sans contradiction, sans partage, il n'aurait besoin que de moi pour être heureux. En attendant, je le suis dans cette vie, parce que j'en compte pour peu tous les maux, que je la regarde comme presque étrangère à mon être, et que tout le vrai bien que j'en peux retirer dépend de moi.
Quelles sont les illusions qui font obstacle au bonheur dans le corps mortel?
Je crois que c'est je parle intuitivement. Les illusions qui font obstacle au bonheur, c'est à la fois le goût d'être heureux qui nous sépare au fond d'une forme de piété ou de tranquillité. C'est le goût d'être heureux, le goût constamment déçu d'être heureux. C'est aussi l'espoir qu'on peut avoir dans les autres hommes, je pense. C'est aussi le sentiment que en conquérant des choses, on s'accroît soi-même, c'est-à-dire le remplacement de l'amour de soi, sur lequel Rousseau ne cède jamais. La plus belle idée de Rousseau, c'est l'idée d'amour de soi, dont il fait l'antithèse de l'amour propre. En confondant amour propre et amour de soi, on verse dans cette illusion toxique. C'est aussi, tout simplement, le fait d'avoir un corps. Le fait d'avoir un corps et d'en être le prisonnier. C'est dommage, on arrive à la fin de l'émission, il y aurait une infinité de choses à dire sur le rapport de l'âme et du corps chez Rousseau, et en particulier dans le texte de la profession de foi du vicaire savoyard.
On en a parlé quand on a dit ces instincts divins ou cet instinct divin.
Oui, et puis on en a parlé à propos de l'héritage cartésien de Rousseau. Rousseau cite Descartes. Mais c'est un des regrets que j'aurais, moi, à la fin de cette émission, de ne pas avoir creusé davantage le lien entre le corps et l'âme chez Rousseau, et c'est maintenant trop tard pour le faire. Un point quand même. Et c'est assez frappant d'ailleurs, à propos, quand il parle de ce corps mortel qui cause nos illusions, il y a deux références ici implicites. Elles sont implicites dans ce passage-là de la profession de foi, et elles sont explicites dans d'autres passages de la profession de foi. C'est Socrate d'un côté, c'est le Christ de l'autre. C'est ces deux hommes aux morts exemplaires, dont finalement le vicaire se réclame, dont ce religieux dissident. Pourquoi est-il dissident ? Parce qu'il est religieux sans religion, finalement. Ou plus exactement, parce qu'il a pour seule religion celle de son corps. Et celle de son... Pardon, bon lapsus. Celle de son corps en latin, c'est-à-dire celle de son cœur. Il a pour seule religion la loi de son cœur, qui ne peut être que vraie. Hein. L'espoir du juste ne trompe point. C'est la fin de la profession de foi du vicaire savoyard. Et la référence ici est implicite, mais il faut quand même le dire. Socrate, on a vu les personnages biographiques réels qui avaient pu inspirer, former ce personnage du vicaire savoyard chez Rousseau. Les abbés qu'il peut croiser, éventuellement Madame de Varins, lui-même. Bon. Mais les personnages conceptuels qui ont créé le vicaire savoyard, c'est Socrate d'un côté, c'est le Christ de l'autre, pour une raison très simple, c'est qu'ils savent mourir. Ils savent mourir. Ils savent mourir à ce qui est périssable, pour vivre à ce qui ne meurt pas. L'un et l'autre, ils ont ce génie-là, ils ont ce talent vertigineux. Socrate, évidemment, parce qu'il est celui qui meurt sans ciller, après avoir vécu sans se plaindre. Et le Christ est celui qui meurt et ressuscite dans un corps de gloire, c'est-à-dire enfin débarrassé de tous les obstacles que son corps interpose entre lui et son cœur, en un sens, entre lui et ce qu'il est susceptible de connaître ou ce qu'il est susceptible d'aimer, où le Christ ressuscite, débarrassé de ce qui fait de lui un homme, c'est-à-dire de ce qu'il expose aux mensonges de ses semblables. Et ces deux figures de Socrate et du Christ, Socrate est une figure christique avant l'heure, ces deux figures de Socrate et du Christ sont vraiment le point culminant de la profession de foi du vicaire savoyard et sont les deux jambes de cette religion sans hétéronomie, de cette religion sans ordre. Au fond, quand un homme questionne son cœur, quand un homme regarde en lui, est attentif à ce que son cœur porte en lui, ce qu'il découvre, les figures tutélaires qu'il met au jour, c'est ces deux-là. C'est Socrate et c'est le Christ, pas pour des raisons de connaissance, pas pour des raisons de savoir, pas pour des raisons même pas de vérité d'ailleurs, mais pour des raisons de vertu en réalité. Pour la raison suivante, c'est que ils ont en commun l'un et l'autre de n'avoir jamais transigé sur le fait qu'être vivant de la meilleure manière, c'était être constamment vertueux. Et qu'un homme qui sait ne recevoir sa loi que de lui-même ne peut se tenir que dans la vertu. Merci Paola, c'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui, une émission que vous pouvez, comme toutes les autres, télécharger et retrouver en ligne à la page du Gai Savoir. Merci à Judith Magre, immense merci à Judith Magre, notre lectrice, à François Connac, notre réalisateur, à Jason Taous et Cédric Châtelus à la technique, à Alice Ramon, notre attachée de production. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Gai Savoir où nous vous parlerons cette fois-ci des noces d'Albert Camus. Et puis, on vous donne rendez-vous, car nous y serons nous aussi toute la semaine avec les Nouveaux Chemins de la Connaissance et Adèle Van Rett, qui voyageront dans le temps la semaine prochaine et vous emmèneront au Moyen-Âge tous les jours de 10h à 11h. Enfin, attention, par ailleurs, je vous l'ai dit la semaine dernière et je le confirme, hélas, Le Gai Savoir va disparaître des ondes pendant 6 semaines, à partir du dimanche 10 février, dimanche 10 février exclu, et ce pour cause de carême. Cette décision n'est pas la nôtre, elle a été prise depuis longtemps, longtemps en tout cas avant l'enregistrement et la diffusion de l'émission que vous venez d'entendre. C'est dire que la religion n'est donc pas en cause dans cette excommunication du ciel sonore, mais ça prouve quand même, si besoin était, qu'elle a parfois, parce qu'au fond elle est quand même plus utile, le dernier mot sur la philosophie. 17h sur France Culture, dans quelques instants, Frédéric Taddeï.